Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, Contact Me, bienvenue pour votre podcast Les Fous du Volant après la 8e épreuve du championnat du monde de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan, en compagnie de Stéphane Vrigno. On va revenir sur ce rendez-vous qui marquera peut-être un tournant pour la saison 2022. Prêt pour une analyse riche du Grand Prix à Bakou, Stéphane?
Oui.
Ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ah oui, j'étais surpris d'entrer le jeu. Eh oui, ah bah, j'étais surpris, comme Pérez sur Leclerc, départ du Grand Prix. Donc, qui s'est soldé par un doublé Red Bull et par un double abandon pour Ferrari. Et qui nous pousse à se poser cette question. Ferrari, est-ce que c'est déjà fini pour 2022? Évidemment, dans le camp d'en face, c'est la voie royale. Doublé Verstappen-Pérez, 44-0 face à Ferrari. Verstappen et Red Bull désormais confortables leaders de leur classement respectif. Alors, est-ce qu'ils sont sur l'autoroute du titre? Ça sera aussi la question qu'on se posera. Et puis enfin, Lewis Hamilton qui descend péniblement de son auto après le Grand Prix. Pierre Gasly qui explique qu'il a conscience de compromettre sa santé au bénéfice de la performance. George Russell qui annonce qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un grave accident ne survienne. 3 mois après le début de la saison, le marsouinage semble ne jamais avoir donné autant de soucis aux équipes de Formule 1 qu'à Bakou le week-end dernier. La FIA doit-elle intervenir pour protéger les pilotes? On parle de tout cela dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ferrari, est-ce que c'est déjà fini? C'est la question qu'on va se poser après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. 2 abandons pour la Scuderia ce dimanche à Bakou. Problème d'hydraulique pour Carlos Sainz au 9e tour. Problème de moteur pour Charles Leclerc au 20e tour. C'est le premier double abandon pour la Scuderia depuis le Grand Prix d'Italie en 2020. Le problème, c'est que ce zéro pointé survient après 4 Grands Prix sans victoire, alors qu'il y a toujours eu une Ferrari en pole position. Il y a eu, en fait, Stéphane, si tu veux, à mes yeux, 2 saisons déjà en une pour Ferrari. Les 3 premiers Grands Prix avec 2 victoires pour Leclerc, qui mène largement au classement des pilotes après le Grand Prix d'Australie. Et puis 5 épreuves après, où la Ferrari F75 est devenue la voiture du samedi. On en est à 4 pole positions consécutives pour Charles Leclerc. Le problème, c'est qu'on marque les points le dimanche en Formule 1. Et autrement dit, la Scuderia a rejoint Mercedes pendant que Red Bull prenait son envol. Il y a un souci, Stéphane, et on va le voir. Je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Les maths, ça nous dit tout de suite où on en est. Leclerc, sur les 5 derniers Grands Prix, a marqué 45 points. Ferrari en a collecté 95. Pendant ce temps-là, Max Verstappen, à lui seul, en a marqué 125, alors que Red Bull en a collecté 224. C'est là un gouffre entre Leclerc et Ferrari d'un côté, Verstappen, Red Bull de l'autre.
Et puis un break surtout, parce que Leclerc a 34 points de retard sur Verstappen, maintenant au championnat, et Ferrari en a 80 au championnat constructeur sur Red Bull. C'est presque deux cartons pleins, parce que le maximum de points c'est 43.
44
voilà.
C'est ce que vient de faire Red Bull à Bakou.
Pour la troisième fois de la saison, donc ça commence à faire beaucoup. C'est pas panique à bord, hein. C'est pas ce qu'on dit chez Ferrari. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les tests à Montmélo, tu t'en souviens, étaient très très bons. Mmh. La voiture tournait comme une horloge. Par rapport à un nouveau championnat, il y avait une prime à la préparation pour Ferrari. On avait dit ils sont prêts, ils sont rapides. Et ça, c'est quelque chose de rare, c'était fiable. Et puis là, à partir du 4e Grand Prix, les ennuis commencent. Donc, on ne sait pas trop de quoi ça retourne. Alors, pourtant, on demande la même longévité au moteur que l'année dernière. Ils ont été modifié, c'est certain, mais je comprends pas bien pourquoi est-ce que Ferrari est en train de flancher là vraiment violemment même par rapport à Red Bull.
On va en parler de ce problème de fiabilité. D'abord peut-être nous interroger sur Est-ce que la F75 est une voiture du samedi parce qu'on en est à 4 pole positions consécutives pour Charles Leclerc. Et derrière, les résultats ne suivent pas, Stéphane. C'est ça le vrai problème.
Oui, il avait déjà fait une séquence de 4 pole positions. C'était quand même autre chose, comme vous pouvez le voir. En 2019, sur la séquence Spa-Monza-Singapour-Sochi, c'était 2 victoires, une deuxième place et une troisième place. Et puis là, c'est une série d'abandons au milieu d'une deuxième et une quatrième place. C'est quand même assez compliqué. Ça peut toujours être pire, Gilles.
Oui.
Dans l'histoire de la Formule 1, on a vu
deux
pilotes faire 5 pole positions sans pouvoir gagner. C'était Montoya en 2002 et avant, c'était Niki Lauda en 1974. Comme quoi, il y a des séries comme ça. Mais donc, bon, il y a un petit peu de marge encore au niveau de la malchance pour Leclerc. Mais bon, je pense quand même qu'on va arriver à bout de tout ça. Hein. Mais quoique, bon, le Canada est assez dur pour les mécaniques, donc ça fait aussi un petit peu peur. Mais il va falloir se reprendre. Et je ne sais pas tellement comment, parce qu'avec des grands prix quand même qui s'enchaînent de dimanche en dimanche, là, on regarde les problèmes dans les moteurs le lundi matin.
Oui.
On essaie de corriger ça, mais avec quel recul? Et
c'est
puis,
ça.
Quelle certitude
C'est-à-dire
à partir
que
du vendredi.
Pendant qu'on enregistre les fous du volant, pendant ce temps-là, le moteur qui a cassé à Bakou, on imagine, est en train d'être analysé par les ingénieurs de la Scuderia Ferrari pour savoir si on peut récupérer quelque chose de ce moteur, parce que on commence tout simplement à en manquer. Ce qui est certain, c'est que du côté de Montréal, on va engager déjà le troisième moteur pour Charles Leclerc. Ça sera la neuvième épreuve de la saison. On pourra réutiliser éventuellement celui qui a défailli la semaine dernière, enfin le week-end dernier, à Bakou. S'il est récupérable, hein, celui qui avait cassé à Barcelone, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle.
Et puis surtout, Gilles, tu dis qu'il n'y a pas qu'un seul moteur à étudier. Il y en a au moins deux, sinon trois, puisqu'il y a trois moteurs en tout chez Ferrari, en tous les cas, trois équipes clientes de Ferrari qui ont connu un incident. Celui de sur la AS de Magnussen est manifestement dû au moteur. Il y a un doute, selon Mattia Binotto, sur la voiture de l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Il a dit c'est peut-être pas un élément relatif, un composant de fabrication Ferrari.
On va voir ça. Ce qui est certain, c'est qu'à
ça fait beaucoup, en tous les cas, trois moteurs,
oui.
A priori.
Sur un Grand Prix, ça commence à faire beaucoup. Et dans l'ensemble, ça confirme une tendance d'ensemble qui émerge après ce premier tiers de la saison, c'est que chez Ferrari et les équipes qui sont équipées de moteurs Ferrari, il y a de la casse.
Il y a de la casse, et puis regarde, là c'est pareil, on vous a fait
un classement,
un championnat nouvelle formule, après le championnat pilote, le championnat des constructeurs.
Le championnat des abandons.
Le championnat des abandons, et là Ferrari trône en tête avec 5 abandons depuis le début de la saison. Alors, il y a eu un abandon collatéral, c'était Sainz à Imola. Mais bon, le fait est qu'ils ont eu 5 abandons. Et puis derrière, ce sont les deux équipes clientes de Ferrari, Alfa Romeo et Haas, qui ont essuyé 4 abandons. Aussi, c'est un petit peu compliqué. Et depuis le début de la saison, en tout, il y a eu 4 casses moteurs chez Ferrari, dans l'équipe d'usine et les équipes clientes. Ça veut dire que là, c'est quand même la cote d'alerte. Quand on sait, par exemple, que chez Red Bull, on a eu 3 incidents, 3, oui. 3 abandons sur casse
technique, voilà, pas moteur. Parce que Max Verstappen et Sergio Perez roulent toujours avec leur premier moteur.
Des périphériques. Et puis, chez Mercedes, on n'en a eu aucun. Donc là aussi, ça compte. On est embarqué, on est mal parti là quand même chez Ferrari. Mattia Binotto a dit l'avantage d'avoir des moteurs clients qui sont défaillants, c'est qu'on peut analyser les casses. Mais franchement, je pense qu'il s'en passerait. Hein. On se cache derrière son petit doigt quand même.
C'est ça, c'est clair. On va répondre à la question. On a attaqué en se demandant si c'était déjà fini en 2022 pour Ferrari et pour Charles Leclerc, ces espoirs de titre. Je te laisse répondre, Stéphane. D'après toi, est-ce que c'est fini ou pas?
Non, moi je l'ai dit, Charles Leclerc a 34 points de retard. Ce n'est pas encore grand-chose par rapport aux 14 Grands Prix qui restent. Ferrari, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Parce
80
que
points de retard au classement des constructeurs maintenant sur Red Bull.
Perez fait le job en plus chez Red Bull, comme on le verra juste après. Donc 80 points, c'est quand même énorme. Mais je pense que ça peut encore rebasculer dans l'autre sens, franchement, avec un doublé Ferrari. Ils peuvent reprendre du rythme, reprendre de la confiance. Ils n'en ont pas perdu de toute façon. Mattia Binotto a dit on n'était pas euphorique en début de saison et c'est pas le moment de perdre nos moyens. On va pas se dégonfler. C'est clairement ce qu'il a dit. Donc les tifosi peuvent être confiants là-dessus. De toute façon, Charles Leclerc l'a dit, la meilleure façon de se remettre d'une telle phase, c'est de gagner le dimanche suivant.
Ça fait plusieurs fois qu'il
ça fait partie du passé. Oui, ça fait plusieurs fois, effectivement. Mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortiront.
Ben, moi, j'ai une opinion un petit peu différente de la tienne. Je pense que oui, ça y est, la chance est passée pour Ferrari. Alors, on est encore assez tôt, c'est vrai, dans la saison. On vient de négocier le 8e Grand Prix. Il y en a 21 au programme de ce calendrier 2022. Mais là, en fait, au-delà du retard, 34 points, c'est évidemment mathématiquement encore largement rattrapable. Le problème, c'est ce qu'on évoquait, le nombre de moteurs qu'il reste à Charles Leclerc. Le moteur qui a cassé en Catalogne n'est plus exploitable. Celui qui a cassé à Bakou, c'était le tout premier moteur de la saison. On ne sait pas encore si on va pouvoir le récupérer. On va en engager un troisième à Montréal. Et derrière, s'il faut en engager un quatrième, ça sera des pénalités qui sont très très lourdes. Ça veut dire qu'on peut essayer d'aller chercher des victoires, on peut essayer d'aller chercher des résultats encore. Hein. Si on engage un moteur, on prend des pénalités, mais les Grands Prix suivants, on peut les faire normalement avec un moteur neuf ou quasiment. Mais pour aller jouer un titre, quand on a devant une armada, un Verstappen-Pérez qui tourne à plein régime avec une Red Bull qui manifestement est encore en phase ascendante, je crois que pour Charles Leclerc, j'espère me tromper et que la bagarre reprenne dans le deuxième tiers de la saison, je pense que la chance est passée.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la même dynamique, souvenez-vous de ce que faisait Ferrari pendant les belles années. Ferrari mettait la nouvelle évolution de son moteur dans les voitures clientes pour valider les évolutions et ensuite les mettre dans ces voitures d'usine. Là, on n'en est plus là, c'est sûr, c'est clair. Et on fait ce qu'on peut, on a même pris de l'avance sur tous ces composants et Ferrari, j'ai l'impression, avance un petit peu à l'aveugle là-dessus. Alors, mais quand même, souviens-toi qu'ils avaient un petit problème dans la chambre de combustion en début de saison et ils en ont profité pour faire passer des évolutions sur le prétexte au prétexte de fiabiliser l'ensemble, ce qui est tout à fait permis et compris par la FIA, mais de gagner quelques chevaux, je crois que c'était 7 chevaux en tout, donc ça fait pas de mal non plus. Ah oui. Et je pense que là, Ferrari va peut-être aussi pouvoir plaider sa cause auprès de la FIA et dire, là, on va avoir quelques modifications à faire, et il en sortira peut-être un petit regain de puissance aussi à voir, mais il faudra que ça se sente d'une façon ou d'une autre.
Le regain de puissance, c'est pas ce dont on a besoin en ce moment chez Ferrari. Ce qu'on a besoin, c'est de fiabilité, c'est d'un moteur qui fasse les grands prix.
Quand tu as la casse, il faut que tu changes des pièces. Et quand tu dis à la FIA, les moteurs sont gelés, mais on va changer certaines pièces. Bon, ben voilà, le jeu aussi, c'est de s'arranger pour gagner un petit peu de puissance. Ils l'ont déjà fait, oui. Hein, d'autres aussi. Et c'est ce que je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire auprès de la FIA. Sachant que le moteur Ferrari avait un petit déficit ce week-end, une petite dizaine de chevaux, 8 j'ai compté en essai libre 3, c'était le point de référence qu'on a eu. Ça veut dire que là aussi il manque un petit peu de pêche. Est-ce que c'était dû aussi à des options aéro? Je ne sais pas exactement, mais on est un petit peu passé en dessous, c'est vrai. Il y a un petit step à refaire par rapport au moteur Red Bull d'origine Honda.
On va enchaîner là avec le Grand Prix du Canada, et ça sera le mot de la fin sur ce sujet, Stéphane. Là, il y a effectivement, Mattia Binotto dit on va pas paniquer. Bah, enfin, là, maintenant, ça y est, clairement, on est dans le dur chez Ferrari.
Oui, là maintenant, c'est opération victoire impérative sur le circuit Gilles Villeneuve. On va voir ce que ça va donner, un circuit qui réclame quand même de la puissance, des reprises. On va voir ce que ce moteur a dans le ventre. J'espère franchement qu'ils vont reprendre la main parce que là autrement effectivement ça va ressembler à une hémorragie.
Alors on va passer maintenant au cas de Red Bull qui a signé donc un doublé avec la victoire de Max Verstappen à Bakou lors de cette 8e épreuve de la saison. Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Pérez, ça fait 44-0 parce qu'en plus le Mexicain a signé le meilleur tour en course. 44-0 face à Ferrari lors de cette 8e épreuve. Verstappen mène au classement des pilotes avec 21 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez et avec 34 points d'avance maintenant sur Charles Leclerc qui a rétrogradé à la 3e troisième place. Red Bull est sur une série de 5 victoires en tête au classement constructeur avec 80 points d'avance sur Ferrari, sachant qu'on peut en marquer 44 hein, maximum hein, sur un week-end classique. Ça fait quasiment deux grands prix de marge pour les Autrichiens. Ils marchent sur l'eau en ce moment chez Ferrari et en plus
chez Red Bull.
Chez Red Bull plutôt, oui. Et on a le sentiment qu'en plus la réussite est avec eux parce qu'en qualification, il y a eu 2-3 alertes pour les pilotes Red Bull et c'est passé.
Oui, pour les pilotes Red Bull parce que on pense à Perez qui maintenant est deuxième du championnat et j'ai regardé Red Bull 1 et 2 au championnat pilote, ça n'est plus arrivé depuis Spa 2011
oui.
Avec Vettel et Weber. Ils avaient l'habitude d'avoir un pilote numéro 1, puis un deuxième qui faisait un peu la pointe. Et là, Perez, quand même, il a musclé son jeu, très clairement. Son ingénieur, d'ailleurs, lui a dit juste avant le départ, tu joues des coudes
ouais.
au départ. Donc, il était...
c'est ce qu'il a fait.
Voilà, il était prêt vraiment à agresser dans le bon sens du terme, mais Leclerc pour faire le jeu de Verstappen. Et puis, effectivement, ils ont quand même de la chance. Ils ont frotté les murs, les deux,
oui,
Verstappen
oui.
et Perez, sans conséquence. Donc, ils ont la baraka quand même, quelque part. Ils jouent avec ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais franchement, voilà, ils jouent sur de velours en ce moment. Et puis, en qualif, quand même, aussi, on l'a vu, il y avait quelque chose qui était un petit peu surprenant. C'est que le potentiel des pneus, normalement, n'était pas bon pour faire deux tours. Mais chez Red Bull, on a pris de l'essence. On faisait un tour rapide, un tour de décélération pour faire refroidir les pneus. Et on réattaquait. Et il faut être très confiant pour faire ça. Quand même, franchement, il faut sentir qu'on a de la marge. Voilà.
Mais, et ça leur permettait quand même de se mettre à l'abri de tous les problèmes de trafic qu'il y a eu sur ce circuit pour les qualifications, avec des embouteillages dignes du périphérique parisien en sortant de la voie des stands à chaque fois que les qualifications étaient interrompues. Red Bull, qui a encore un point éventuellement à améliorer, c'est les performances de cette auto en qualification, parce que pour l'instant, on reste sur une série de pôles de chez Ferrari et de Charles Leclerc en particulier. Mais sinon, à part ça, à Bakou, moi, j'ai le sentiment que même s'il n'y avait pas eu la casse des deux Ferrari successives, j'ai le sentiment que les deux Red Bull allaient terminer aux deux premières places. Ça va un petit peu plus vite en course du côté des Red Bull.
Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait pu être parce que Leclerc était en tête, mais par un concours de circonstances.
En tout cas, par une stratégie décalée.
Voilà, c'est ça. Et après, on ne savait pas comment est-ce qu'eux pouvaient en profiter ou pas. Mais on ne le saura jamais. Mais c'est vrai qu'il tenait la course. Et puis, encore une fois, il faut voir l'évolution de Red Bull un petit peu en creux par rapport à ce que fait Ferrari. Et Sainz n'était pas capable non plus de venir en aide à Leclerc. Alors,
non.
Depuis le 9e ou 10e tour, parce qu'il avait abandonné. Mais on l'avait vu déjà aux essais, il n'a pas pesé sur le départ non plus.
Et juste puis après, sur les 9 premiers tours, il est
4e,
il est derrière.
Voilà. Verstappen l'a un petit peu surveillé. Donc, il ne pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait parce que le mot d'ordre, c'était d'essayer de piéger Verstappen. Mais après, Verstappen s'est envolé et Sainz n'a plus du tout compté. Il a explosé derrière complètement.
Moi, j'ai le sentiment que cette Ferrari, en course, elle est en difficulté par rapport à la Red Bull, si tu veux. Autant qu'en qualification, elle a l'avantage par rapport à la Red Bull. Et j'ai l'impression que Ferrari a fait une voiture de qualification et Red Bull a fait une voiture de course. Voilà, mais c'est à la fin de la course qu'on marque les points.
C'est un peu ça, oui, tout à fait, Gilles. Parce que le dimanche où ça fonctionnait bien, c'est la stratégie qui a été défaillante chez Ferrari.
À Monaco.
Voilà, donc là maintenant, il faut tout bien faire. Et Red Bull, là, c'est une machine de guerre. C'est une écurie qui est rodée, surtout par rapport à l'année dernière. Et c'est là où on s'aperçoit que Ferrari a passé quand même 2-3 ans sans avoir l'habitude de rouler devant. Ils ont bien démarré le championnat, mais sur la longueur, sur des circuits différents, dans des circonstances un petit peu complexes, là, ils sont pas encore au niveau.
Ouais, clairement, ils ont perdu, en fait, hein, on l'a déjà évoqué, hein, cette faculté, ce langage
ouais.
Pour aller chercher les victoires. Et pendant ce temps-là, tu évoquais le fait que Red Bull avait été assez prévoyant en mettant suffisamment d'essence pour ne pas faire re-rentrer ses autos entre deux runs en qualification. Il y a une part aussi d'anticipation et de prudence. On a anticipé aussi du côté de chez Red Bull. Alors, c'était facile, il n'y avait plus de Ferrari. Mais on s'est même évité de se faire mal au crâne avec le DRS en fin de course.
Qui avait posé problème en essai libre 1. Et Red Bull a décidé de remonter la version qu'avait Perez, donc un petit peu plus lourde, mais fiable. Et ça, c'était un petit peu l'obsession aussi. Et on l'a vu en fin de course. Red Bull a demandé à ses pilotes de ne pas se servir du DRS. Alors, les Ferrari étaient au garage, c'était terminé, il y avait un doublé qui se profilait, donc il fallait vraiment assurer, et j'y vois aussi l'enseignement de l'édition 2021 à Bakou, lorsque Stroll avait éclaté un pneu au 30e tour, et on avait continué d'attaquer chez Red Bull, très très fort. Verstappen menait, il était un petit peu pressé par Hamilton derrière, mais Hamilton était à 4 secondes et demie ou 5 secondes, il avait en couverture Perez, et on avait trop attaqué.
Oui, on avait joué le tout pour le tout et on avait
voilà.
perdu.
Et il avait fini lui aussi par éclater son pneu, donc ça veut dire qu'on tient compte de tout ça. Franchement, moi j'ai vu dans cette décision-là aussi l'enseignement de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc on a de la mémoire chez Red Bull et on s'en sert aussi pour ça, assurer. Et puis, quelque part aussi, quand Verstappen a passé Perez, bon, il n'y a pas eu de résistance de la part de Perez. C'était marrant.
J'allais enchaîner là-dessus. Tu me parles de mémoire pour Red Bull. Je pense que Christian Horner se souvient des problèmes qu'il avait eu à l'époque de Sébastien Vettel et de Mark Webber, et qui ne veut pas avoir de nouveau une bagarre. Or, on a le sentiment que le seul point maintenant, le seul élément qui peut venir troubler la marche en avant de chez Red Bull, bah, c'est les progrès de Sergio Perez, qui était quand même encore une fois devant Max Verstappen sur la grille de départ, et on se dit peut-être qu'à un moment Sergio Perez il va en avoir assez de laisser passer Max Verstappen. Sergio Perez, c'est le spectateur qui aura vu le plus passer Max Verstappen en Catalogne, ouais. À Bakou, ouais, alors, à chaque fois il voit passer Max Verstappen. Vas-y, je t'en prie.
Quand même, on l'a noté au début de ce podcast, Perez est deuxième du championnat.
Oui.
C'est pas pour rien, ça veut dire qu'il a l'intelligence aussi de s'incliner. Et Marco a dit, nous on n'a pas de consigne, il n'y a rien d'écrit dans le contrat. Alors, si, ils avaient été assez insistants. À Nouvello, il avait refusé deux demandes par rapport à Verstappen. Mais là, il a dit, il n'y a rien d'écrit, mais en fait, les rythmes étaient tellement différents que Perez ne pouvait pas faire autrement que de s'incliner. C'est quand même bien de sa part parce qu'il a signé un contrat, 2 ans, il est loyal. C'est pas comme s'il il était en position de faiblesse et qu'il voulait re-signer. Non, c'est déjà fait. Donc il est dans sa position de numéro 2, je dirais. Et là, il est un petit peu sorti du champ des challengers de Verstappen, parce que c'est ce qu'on demandait. Après Monaco, peut-il battre Verstappen? Et là, il s'est mis en retrait.
Et bien alors, donc, ça répond partiellement à notre question. Autrement dit, c'est l'autoroute vers le titre pour Max Verstappen.
À moins d'une réaction de Ferrari, ce sont les seuls qui peuvent maintenant contrecarrer la forme de Verstappen. C'est vrai, c'est maintenant à Leclerc de jouer. J'espère qu'il aura le matériel pour, parce qu'on a le sentiment qu'il fait tout bien. Franchement, Gilles, il prend des risques. En qualification, il fait des beaux tours chrono. Il a dit qu'il avait appris à mieux gérer les pneus le dimanche. Bon, voilà, et ça n'a pas payé.
On n'a pas eu le temps de le voir à Bakou. Il y a eu aussi cette option stratégique quand même, hein, en Azerbaïdjan, où Ferrari avait décidé de faire rentrer Charles Leclerc dès la première intervention de la voiture de sécurité. Ce qu'a pas pu faire d'ailleurs Sergio Perez, ouais. Parce qu'il était déjà passé au niveau des stands quand la voiture de sécurité virtuelle a été engagée. Et on avait là aussi anticipé chez Red Bull en disant à Max Verstappen, tu fais l'inverse de Leclerc. Leclerc est rentré dans les stands. Verstappen a décidé de rester en piste. On voit que tout est prêt. Finalement, on anticipe, on laisse faire les choix à l'adversaire, mais on a déjà anticipé ce qu'on va faire selon les scénarios. C'est redoutable. En ce moment, vraiment, Red Bull est un ton au-dessus de tous les adversaires, parce que si on passe en revue, on a le sentiment qu'il n'y a que Leclerc qui peut se mêler à cette bagarre. Chez Mercedes, on se débat avec ce phénomène de marsouinage, ce pompage, comme au premier jour de la saison. Derrière, on est à des années-lumière au classement des constructeurs. McLaren qui fait le yo-yo, qui a inscrit le quart des points de Red Bull depuis le début de la saison. Alpine qui n'est pas si loin de cette quatrième place détenue par McLaren, mais qui donne le sentiment de se heurter à un plafond de verre. Si c'est pas une autoroute, c'est oui, quand c'est même une belle nationale là, pour Verstappen vers le titre 2022. On verra, il y a peut-être déjà l'occasion d'enfoncer le clou avec ce Grand Prix du Canada. On a parlé un petit peu de marsouinage depuis le début des Fous du Volant aujourd'hui. On va s'y intéresser d'autant plus près que, à mes yeux, Stéphane, l'image la plus marquante lors de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est le temps infini, les difficultés de Lewis Hamilton pour quitter le baquet de sa Mercedes à l'arrivée du Grand Prix, le septuple champion du monde, quatrième, qui déclare même avoir prié dans sa voiture pour que ça s'arrête. Toto Wolff avait évoqué la possibilité d'un forfait de Lewis Hamilton pour le Grand Prix du Canada, tellement il avait souffert. Bon, depuis, Lewis Hamilton, il a communiqué en disant qu'il serait bien là. Il a fait des traitements et qu'il serait au rendez-vous. Mais quand même, on est obligé de s'interroger un tout petit peu, de se demander si la FIA ne devrait pas intervenir pour protéger la vie des pilotes. Et c'est des termes forts, mais on va quand même s'intéresser à quelques déclarations qu'on va vous citer. Pierre Gasly, qui nous dit « Je compromets ma santé pour la performance. Je le ferai toujours parce que je suis un pilote et que je veux toujours avoir la voiture la plus rapide possible. Je ne pense pas que la FIA devrait nous mettre dans une position où l'on doit choisir entre la santé et la performance. Pour le moment, c'est assez délicat et ce n'est clairement pas tenable. » Ça, c'est Pierre Gasly qui le dit. C'était lors du meeting, du briefing des pilotes qui est avant le week-end de course en Azerbaïdjan. George Russell, qui déclare à la presse britannique, « Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que nous assistions à un accident majeur. Beaucoup d'entre nous arrivent à peine à maintenir la voiture en ligne droite sur les bosses. Je peux à peine voir la zone de freinage parce que je rebondis tellement. Et lorsque vous prenez ces derniers virages à bas coût, vous avez des murs de chaque côté à près de 300 km/h et la voiture rebondit sur la piste. Ce n'est pas confortable. Donc, en tant que groupe, il parle des pilotes, nous avons besoin d'un petit peu de réflexion parce que c'est définitivement dangereux. » C'est quand même pas c'est pas des peintres qui nous disent ça, c'est Pierre Gasly et George Russell.
Et Toto Wolff, le boss de Mercedes, a quantifié vraiment cette force de rebond. Au passage d'une bosse, il dépasse les 6G en vertical dans la voiture. Donc c'est infernal. Et c'est cette répétition qui fait que ça devient intenable. Quand on entend Lewis Hamilton au 29e tour dire « mon dos me tue », ça interpelle quand même. Quand on le voit effectivement sortir avec toutes ces difficultés de sa voiture, on se dit « la Formule 1, mais pas à ce prix-là, c'est pas possible
voilà. ».
Bon, alors, apparemment, on a avancé sur le dossier. Selon la presse allemande, la FIA va enquêter sur les causes précises de ce marsouinage, de ce talonnage, parce que là, clairement, c'était aussi les boss du circuit
lui-même,
voilà, qui posaient problème dans cette grande ligne droite qui est la plus grande du championnat, 2200 mètres, c'est plus long même qu'à Spa, et avec des boss, c'est juste infernal, c'est intenable. Alors, dans ce concert d'appel à la responsabilité de la FIA, il y en a d'autres quand même qui disent bah, « nous, ça nous va bien ». Comme Norris qui dit « débrouillez-vous, qu'ils règlent ce problème eux-mêmes, chacun a ses soucis ». Alors, je te rappelle que Adrian Newey, donc le concepteur de la Red Bull, a dit « la complexité, c'est qu'il y a un phénomène de marsouinage propre à chaque voiture ». C'est le même phénomène, mais il ne se déclenche pas de la même façon selon les caractéristiques, selon ce qui se passe en dessous de la voiture, l'effet aérodynamique, cet effet Venturi qui est produit sous la voiture depuis cette année. Donc chacun est face à un problème unique.
C'est ça.
Je dirais, c'est ça la complexité de l'histoire. Alors, quelle solution maintenant ? C'est un petit peu là ce qu'il faut voir. Alors, pour Christian Horner, le boss de Red Bull, c'est tout vu.
Ouais,
c'est
bien,
vous remontez la caisse et puis tout ira mieux. Alors, ils perdront à peu près 5 dixièmes. Mercedes a donné les chiffres ce week-end. Il faudrait qu'il remonte la voiture d'un centimètre. Alors que remonter la voiture de 3 mm, ça lui fait perdre un dixième. Donc là, ils sont déjà à quoi, 9 dixièmes autour. Donc, ils seraient encore plus loin. Imagine Gilles, donc là, c'est pas la peine, autant mettre la clé sous la porte. Donc, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Et là, c'est Sainz aussi qui l'a bien dit. Il a dit, le problème, c'est que les équipes, en fait, règlent les suspensions des voitures trop dures. C'est intenable. Les ingénieurs règlent la voiture, on monte dedans. Alors, voilà, les pilotes n'ont rien à dire, ça, on le sait très bien. Mais maintenant, il va peut-être falloir faire autrement parce que, comme tu dis, l'accident n'est pas loin.
Alors, en fait, on en est arrivé là. Parce que je pense que dans l'idée de tout le monde, que ce soit les dirigeants de la FIA et probablement la majorité des équipes, on se disait qu'on allait résoudre ce problème du pompage des voitures durant les premières semaines, les premiers mois de Grand Prix. Sauf que il se résout pas et que là, on l'a vu, c'était même pire que d'habitude à Bakou, puisque la piste elle-même est bosselée. La difficulté, c'est que on peut aussi soupçonner certaines équipes de vouloir tirer bénéfice de la situation. Si on parle de Toto Wolff, qui a été le premier à dire non, mais là, il faut faire quelque chose. Eh oui, Toto Wolff, qui était le grand Manitou de la Formule 1 avec Mercedes, qui se retrouve en difficulté. Il a beau jeu d'essayer, effectivement, ça serait dans son intérêt sportif d'essayer de modifier un petit peu les règles. Pour faire, par exemple, qu'on relève les autos, la fameuse hauteur de caisse, si on augmente un petit peu la hauteur de caisse, forcément, elle va avoir moins tendance à taper au sol. Et sauf que, dans le camp d'en face, Christian Horner, qui lui a quand même réussi à faire marcher son auto beaucoup mieux, n'a pas envie qu'on impose une limite, parce que ça serait ça la solution, en fait. Ça serait de dire que la FIA dise, maintenant, on va contrôler les autos et il faut qu'elles soient à une hauteur minimale de X millimètres. Ça réduirait le problème, mais ça va dégrader la performance pour toutes les voitures. Donc, quelque part, on sera à égalité. Évidemment, ceux qui ont le plus à perdre, c'est ceux qui vont le plus vite, donc Red Bull. Mais là, j'ai le sentiment qu'on est en train d'arriver au stade où la performance, on s'en moque un petit peu. Quand on a des garçons qui vous disent « on joue avec notre santé ».
Alors, oui, parce que c'est quand même pas n'importe quel pilote non plus qui l'avance, c'est Hamilton, 7 fois champion du monde, il est en fin de carrière, il a 37 ans. Il y a des pilotes qui vivent peut-être le même enfer en ce moment, mais qui veulent faire leur place en Formule 1, qui sont jeunes et qui ne veulent pas qui n'osent pas se plaindre de ça. Donc c'est
qui veulent pas passer pour le géniard de l'histoire, quoi.
Oui, ce qu'on comprend tout à fait. Alors Hamilton, en plus, il roulait avec des pièces expérimentales apparemment qui étaient différentes de la voiture de Russell. Il tentait quelque chose, mais là c'est vraiment le marsouinage plus le talonnage qui pose problème. Alors Gilles, tu sais quand même que dans l'histoire de la Formule 1, on a parfois, même souvent, invoqué la sécurité pour changer le règlement en urgence. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas quand on aura une voiture dans le mur avec un pilote gravement blessé qu'on dira oui, on aurait peut-être dû le faire avant. Donc cette idée de relever la caisse, je trouve qu'elle est intéressante. Et j'irai même peut-être plus loin parce que les suspensions actives sont une technologie qui a été créée il y a 30 ans. Ça serait assez facile à réinstaurer sur des voitures. Et là, pour le coup, ça irait peut-être même dans le sens de l'esprit du règlement d'aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures qui sont collées au sol, qui sont stables, qui peuvent se suivre parce que l'effet de sol est constant et est très efficace pour avoir plus de dépassements. Et là, en fait, cette suspension active qui est apparue sur la Williams de 92 de Nigel Mansell et Riccardo Patrese, elle faisait circuler en fait les pilotes sur comme un coussin d'air. C'était vraiment très très doux. Et c'est peut-être ce qu'on cherche aujourd'hui pour régler ce problème-là sans dépenser peut-être des sommes folles.
Exactement. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de sécurité des pilotes et je pense qu'il y a une vraie nuance dans l'esprit des gens entre sécurité, parce que quand on parle sécurité, on imagine accident, on imagine mort, clairement, et puis santé. Où on se dit oui d'accord, mais c'est pas impactant, aussi impactant entre ces termes de sécurité et de santé. Je pense qu'il faut travailler là-dessus parce que moi je te dis honnêtement, j'ai l'impression quand tu vois les caméras embarquées et t'entends, parce qu'en plus les moteurs font plus le même bruit qu'avant, donc on entend la voiture taper au sol, on voit le casque, j'ai l'impression, j'ai la même sensation que quand je suis devant un match de boxe, qu'un des deux boxeurs a pris l'avantage sur l'autre et qu'il est en train d'asséner des coups à son adversaire et que l'arbitre ne réagit pas. Ouais. Tu te dis, mais ça y est, c'est bon, on a notre vainqueur, arrête l'histoire, c'est bon, on a compris. Là, je pense qu'on est à ce moment-là, il faut dire, attendez, stop, on arrête.
Les écuries sont en train de travailler quand même sur les voitures de 2023, donc on ne peut plus faire grand-chose ou intervenir sur un système, je parlais de la suspension active qui est très très évoluée. Hein. Donc la seule solution, effectivement, c'est relever la hauteur de caisse, mais les voitures auront encore des suspensions qui seront très très dures, elles talonneront plus, le marsouinage sera quand même fixé, je dirais solutionné, donc ça c'est plutôt bien, je pense. Moi je prendrais pour ça, même si à l'époque, il y a 30 ans presque, les suspensions actives ont été interdites parce que quand elles étaient défaillantes, ça menait à une sortie de piste. Donc c'est pour ça aussi qu'elles ont été interdites. C'était un petit peu le tout électronique et le pilote perdait le contrôle par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a un compromis à trouver. Relever la hauteur de caisse, oui, c'est bien. Et puis Horner qui dit fin de non-recevoir. C'est un peu fort de café aussi, parce que c'est lui qui nous a expliqué que le DAS, là, le système, la double axe qu'avait créé Mercedes pour le début du championnat 2020, il disait qu'il était dangereux potentiellement et qu'il fallait l'interdire pour ça. Là, c'est le danger est immédiat et la question, c'est la santé des pilotes.
C'est ça, ils sont...
Donc il y a une concession quand même à faire aussi. Ça serait peut-être bien de renvoyer un coup de balancier dans l'autre sens. Parce que Mercedes a été longtemps le leader sur le plan technique. Là, ils sont un petit peu en retard, mais il y a un problème qu'ils ont tous. Et ça va peut-être être un petit peu difficile aussi de concerter tout le monde. Parce que quand on voit que Norris n'est pas d'accord chez McLaren, ça veut dire que Wolff, qui équipe en moteur plusieurs écuries, ne peut pas actionner ce levier politique. Donc ça se situe vraiment au-dessus maintenant à la FIA, je pense.
Oui, on est à peu près d'accord. Voilà donc ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui était la 8e épreuve du championnat 2022. Ça va s'enchaîner, ça aussi, hein, c'est un peu la complexité de la situation. Et ça va s'enchaîner avec un déplacement qui est aussi assez ahurissant. Là, quand on fait le calendrier, il y a des moments quand même, il y a une logique moi qui m'échappe, c'est qu'on va d'Azerbaïdjan, on va aller directement à Montréal, au Canada. On était, rappelle-moi, il y a quelques semaines à Miami.
En toute logique.
C'était juste... Allez. Tout droit. Enfin bon, bref, faites comme vous voulez, hein, mais il y a peut-être 2-3 déplacements qu'on peut éventuellement rendre un peu plus cohérents. Les horaires de ce Grand Prix du Canada, c'est dès vendredi là, vendredi à 20h. Donc là, c'est en début de soirée. Et ça va s'enchaîner, c'est une des particularités. Hein. 20h, 21h, la première séance d'essai libre. 23h, la deuxième. Si vous avez un souci dans la première, vous avez une chance d'en perdre deux. La qualif, c'est samedi à 22h. Et le dimanche, on aura donc le Grand Prix à partir de 20h. C'est toujours spectaculaire, le Canada. C'est pas un Grand Prix comme les autres. Et on y revient en plus depuis longtemps. Hein. Ça fait partie de ces Grands Prix qui nous ont manqué.
Oui, tout à fait. Il se passe toujours des choses un petit peu...
inhabituelles.
Oui, tout à fait. Le mur des champions, déjà. Les histoires de Vettel en 2018 qui avait été disqualifié, etc. Il y a de l'action, toujours. C'est un circuit qui use beaucoup les mécaniques. Et dans la dernière partie de course, il y a souvent des rebondissements. Et je me souviens aussi de l'édition 2012 qui était... l'une des plus belles, sinon peut-être la plus belle sur le plan de la stratégie. 5 pilotes différents sur 3 stratégies vraiment opposées. À 15 tours de la fin, on ne savait pas qui allait gagner. Donc ça, ce Grand Prix du Canada était extraordinaire pour ça. Et je crois que oui, tous les ans, c'est une constante, il se passe quelque chose à Montréal, il faudra regarder la course.
On y sera de toute façon et puis on se retrouvera dans la semaine qui suit pour un nouveau numéro des Fous du Volant, ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez apprécié et puis à vous abonner et de cette manière eh bien, vous recevrez directement le nouveau numéro sur vos supports, sur vos tablettes, vos smartphones. Voilà Stéphane, je crois qu'on a tout dit. Ça va enchaîner très très vite.
Oui, tout à fait.
Bon Grand Prix du Canada. Et d'ici là,
on coupe le contact.